Alors, on a pu lire ces dernières semaines dans Le Monde un titre « Le Chili choisit la gauche pour lutter contre les inégalités ». C'était dans Le Monde le 21 décembre. Sur Mediapart, « Chili, une nouvelle ère politique ». Alors, le 19 décembre dernier, les électeurs et électrices chiliens étaient une majorité à désigner Gabriel Boric, le candidat de la coalition de gauche, pour être le prochain président du Chili. Alors cette victoire de la gauche face au candidat d'extrême droite au second tour, elle intervient dans un contexte politique bien particulier puisque on se retrouve près de 2 ans après le commencement d'un mouvement social qui a retourné le pays et que depuis juillet 2021, si je me trompe pas, il y a une convention constitutionnelle qui est chargée de réécrire une nouvelle constitution et qui met un terme donc à la constitution qui avait été écrite par Pinochet et son régime en 1980. Et donc c'est l'occasion peut-être pour nous de discuter là pendant une heure avec Franck Godichaud, professeur des universités en histoire et études latino-américaines contemporaines à la fac Jean Jaurès, en Mireille. Bonjour.
Bonjour.
Et Natalia, pardon, là je dis juste ton prénom, parce que tu fais partie du réseau France-Amérique latine et tu es toi-même chilienne.
Exactement.
Bienvenue à vous. Peut-être avant juste de commencer, peut-être pour vous présenter un petit peu, est-ce que vous pourriez présenter vos activités au sein de France-Amérique latine pour qu'on puisse, on en reparlera au cours de l'émission, mais pour comprendre un petit peu présenter un petit peu cette association, c'est un collectif, une association?
Exactement, c'est une association qui a déjà plus de 50 ans et elle est née en 70. Du coup, c'est un peu symbolique parce qu'elle naît par rapport à la solidarité avec l'Unité populaire et le gouvernement de Salvador Allende. Et donc, et après, ça s'est ouvert aux exiliés de l'Amérique latine en général. Et pendant toutes ces années, il y a eu des projets de solidarité et aussi une espèce d'écho de tous les mouvements sociaux de l'Amérique latine. Nous, on fait partie du Comité Toulouse, mais c'est une association nationale qui a plusieurs comités. Et donc, nous, on est le Comité Toulouse qui travaille depuis plus de 30 ans ici à Toulouse. On a des festivals, on a des activités qu'on peut peut-être rappeler après, si vous voulez.
Vous êtes active dans l'organisation de Ciné Latino, par exemple, ou pas spécialement?
On fait des partenariats avec Ciné Latino. Mais nous, on a un festival à nous qui s'appelle Latinodoc, ouais, qui a déjà 10 ans. Et donc, c'est que des documentaires latino-américaines. On essaie d'avoir des réalisateurs et réalisatrices émergentes. Donc, c'est vraiment les mouvements sociaux de l'Amérique latine.
Il y a un enfant dans le studio, voilà.
Bon, oui, c'est mon enfant. Il s'appelle Ine.
Merci beaucoup. Alors, on pourra revenir justement sur les prochaines manifestations dans le cadre de cette association. Mais d'abord, je voulais revenir sur un article que vous avez signé qui s'appelle, dans Le Monde diplomatique là, de janvier, qui s'appelle « Tout commence au Chili », dans lequel vous apportez des éléments sur la coalition là, qui a gagné les élections et sa stratégie politique, qui est assez éloignée de ce qu'on peut imaginer quand on ne s'est pas vraiment penché sur le sujet, comme je l'étais il y a quelques semaines, en se disant « bon, la gauche a gagné, il peut y avoir un renversement de situation politique ». Et là, en fait, on comprend qu'on est assez loin d'un changement révolutionnaire, mais plutôt, ça se rapproche plutôt d'une social-démocratie qui a d'ores et déjà rencontré la classe capitaliste et offert des garanties pour le respect d'un budget d'austérité, notamment en 2022. Du coup, peut-être après être revenu un petit peu sur les enjeux là rapidement de cette élection et du contexte là actuel au Chili, je me demande en fait quels sont les changements socio-économiques que les Chiliens et Chiliennes peuvent attendre là de la période qui s'annonce avec cette constituante et cette élection.
Ce qu'on peut dire, oui, enfin, on peut voir les aspects de transformation en cours qui sont issus des grandes mobilisations de 2019, de l'émergence d'une nouvelle gauche au Chili, de cette victoire donc d'une coalition autour du Parti communiste et du Front large menée par Gabriel Boric, qui a 35 ans. Ce sera donc le président le plus jeune de l'histoire du Chili, autour d'un programme de réformes sociales avancées dans un contexte néolibéral radical, en fait. Donc, si on regarde le programme seul, effectivement, ça peut paraître peut-être décevant. Si on a vu tout le cycle hein, des grandes luttes qu'il y a eu depuis 2019, on aurait pu penser que ça irait encore plus loin. D'ailleurs, Aïna est en train de protester dans sa poussette
Tout à
face
fait.
aux limites de ce programme de la gauche chilienne.
Exactement.
Mais en même temps, il faut voir le contexte, à quel point les rapports de force, hein, les rapports de classe sont très dégradés au Chili pour les classes populaires, pour les gauches en général, pour le mouvement syndical, même s'il y a vraiment une réactivation, hein, des luttes très très fortes. Et donc dans ce contexte, le pari de Boric, donc du Front large et du Parti communiste, c'était de pro. Oui, c'est un programme qu'on pourrait, vu depuis la France, qu'on pourrait effectivement qualifier de social-démocrate. D'ailleurs, une des nouvelles ministres centrales du gouvernement, Camila Vallejo, qui est une ex-députée communiste, qui était une figure des luttes étudiantes dans les années 2011, a dit clairement dans la presse, on est dans le cadre d'un gouvernement de centre-gauche. Donc, vu l'ampleur des luttes, on peut dire, pourquoi seulement de centre-gauche, pourquoi pas aller vers un agenda beaucoup plus radical, finalement? Et en même temps, c'est vrai qu'il faut voir l'ensemble des rapports de force qui vont être très compliqués, même si Boric, et comme vous l'avez très bien dit, a donné des garanties, hein, notamment entre les deux tours, au patronat, en disant qu'il allait respecter les engagements du gouvernement de droite actuel, le budget 2022 qui est déjà voté, qui est effectivement très contraint, mais il est ultra minoritaire au Parlement. Pour passer les réformes, ça va être très très compliqué. Il a dû intégrer dans son gouvernement des anciens du Parti socialiste qui avaient géré le néolibéralisme en fait au Chili pour essayer d'avoir des majorités, et encore il ne les a pas à ce stade. Donc une des clés pour avancer, ce sera aussi si la société civile, les mouvements sociaux s'organisent, poussent en fait, pour continuer à limiter le poids d'une extrême droite quand même, qui était très très forte hein, dans ces élections, qui était en première place au premier tour et qui a fait plus 45% des voix au deuxième tour.
Ça me faisait penser à un article qu'on peut lire sur Mediapart, un entretien avec Gabriel Salazar qui est historien et qui disait en gros que la gauche, enfin que le parti au pouvoir était un petit peu dans l'obligation de répondre en fait à certaines demandes du mouvement social sous peine de se faire éjecter. Peut-être pour mieux comprendre, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent n'ont pas trop suivi ce qui s'est passé depuis 2 ans. Deuxième moitié de 2019, il y a un mouvement qui commence avec l'augmentation du prix des tickets de métro, je crois, enfin, du prix des transports. Ce sont les lycéens, les étudiants qui vont commencer à se mobiliser. Et en fait, là, ça va en quelque sorte exploser. Il y a des gros mouvements, des grosses manifs réprimées. Je crois qu'il y a eu des morts au cours de
oui, 36 morts. Ouais.
La question que je me pose, c'est quelles étaient les composantes, en fait, si on peut présenter un peu ça rapidement de ce mouvement social, quels étaient ces axes de contestation? Et pour finir, quels sont les liens entre justement cette histoire récente de ce mouvement social et peut-être une recomposition de la gauche là, de parti?
En tout cas, en octobre 2019, on a parlé oui, de l'estallido social, donc d'une explosion en fait sociale. En fait, c'est oui, c'est plutôt une révolte populaire dans laquelle il y a plusieurs acteurs mobilisés, en particulier la jeunesse, qui était vraiment la pointe avancée du mouvement, une jeunesse qui n'a pas vécu la dictature, qui a perdu la peur, comme on dit au Chili, qui est très politisée, qui manie extrêmement bien les réseaux sociaux, qui a une défiance radicale envers le système politique et les partis en général, quels qu'ils soient d'ailleurs. et qui a commencé à mobiliser autour de on veut plus de ce système de 30 ans d'une démocratie néolibérale. Depuis 90, c'est la fin de la dictature au Chili. Et donc l'idée, c'était, ce ne sont pas 30 centimes d'augmentation, mais 30 années d'une démocratie néolibérale, inégalitaire, qui crée du mal-être social, de l'endettement, du racisme contre les populations autochtones, des inégalités radicales de genre, la question du patriarcat. Et donc, ensuite, ça s'est élargi très vite vers des travailleurs précarisés, des classes moyennes diplômées, mais qui sont endettées parce qu'ils ont dû acheter leur diplôme, et autour de revendications d'abord sociales. Et ensuite, la question de la Constitution. Mettre fin à la Constitution de Pinochet. Donc on est dans une, entre guillemets, démocratie qui a encore la constitution de la dictature. C'est quand même pas une petite affaire. Et parmi ces acteurs, il y a le mouvement féministe que peut-être, Natalia, tu pourrais...
Oui, exactement. Comme tu disais, le mouvement social, il est franchement beaucoup pris pour la place des femmes, en fait. Et c'est les femmes aussi toujours qui... Ça, pas toujours, mais depuis 2019, en fait, depuis mars 2019, il y a eu un grand rassemblement pour la journée des femmes. Le 8 mars 2019, il y a eu plus de 800 000 femmes dans la rue, qui c'est assez énorme pour Chili. Donc, c'est une des premières manifestations et après la dictature et de plus nombreuses. Donc c'était assez importante pour le mouvement féministe, c'est 2019, et du coup, moi en tout cas, ce que j'interprète, c'est que ce mouvement, il a aussi donné de la force pour avoir cette énergie et sortir dans la rue et appeler tous les mouvements et tous les agents sociaux, toutes les personnes. Et dans la rue. Donc c'est aussi les femmes, on sait déjà que c'est les plus précarisées.
Justement, j'allais te demander un petit peu à quoi ressemble ce mouvement féministe. Est-ce qu'il s'axe sur la question des droits reproductifs, plus sur la question sociale? Est-ce que justement c'est transversal?
C'est transversal, mais en Amérique latine, le débat et le problème de l'accès à l'avortement, c'est assez important. Donc ça ressemble aussi avec cet axe de lutte.
On en est où là au Chili d'ailleurs sur le...
Eh bien en fait... Avant Piñera, il y a eu le deuxième gouvernement de Bachelet. Bachelet, il avait mis avortement légal, mais pour des trois causes. Est-il avortement? Non, c'était pour violation, pour risque de la maman et pour risque de l'enfant. C'est tout. Okay. Donc... Piñera, il a mis sur une...
Le micro fascine cet enfant,
oui,
mais...
Voilà. Il a mis... Piñera, il a mis un... Comment ça s'appelle? Un tribunal constitutionnel, que c'est un tribunal assez... qui c'est un espace de la constitution de Pinochet, donc c'est assez... c'est pas démocratique du tout. Okay. Donc, dans cette tribunal constitutionnel, ils ont annulé cet avancement qu'il y a eu dans le gouvernement de Bachelet. Et aujourd'hui, avec la convention constitutionnelle, il y a eu... un énormément appel à avoir des normes, y avoir des débats à discuter, y a approuvé dans la convention constitutionnelle et le mouvement féministe, ils ont beaucoup travaillé et réagi pour amener le débat de l'avortement. Et du coup, la semaine dernière, les droits reproductifs et le droit à l'avortement, il est passé comme une norme de la Convention constitutionnelle.
Donc, c'est-à-dire que ça va être inscrit dans la Constitution.
Dans la Constitution.
Ok.
Donc c'est une super, c'est une super, on va dire réussite. Ouais. C'est une super bonne nouvelle. Et donc, le mouvement féministe, aujourd'hui, en fait, il est assez... il y a la coordinadora 8M, qui est une coordinadora qui est... Oui, voilà. Qui est née, du coup, un peu avant le 8 mars 2019, mais là, il a pris beaucoup, beaucoup de force. Et donc aussi... D'ailleurs, il faut dire que le 8 mars 2022, on visualise bien fort et bien, bien mobilisé. Voilà.
Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977, no me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Adolescencia fue una etapa avisar, el cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas, caminas encrucijada. Cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila la verdad nunca buscó su silla, mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva, en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente.
De retour dans le magazine de Canal Sud, il est bientôt midi et demi, toujours en compagnie de Franck Godichaud, Natalia et du petit bébé dont j'ai oublié,
Aïna.
Et d'Aïna, dans le studio pour parler, pour discuter en fait des transformations politiques, sociales à l'œuvre actuellement au Chili. Mais peut-être pour poursuivre, ça serait chouette de faire un petit retour historique sur justement ces... ces 30 dernières années, puisque chronologiquement, il y a l'arrivée au pouvoir de Pinochet en 73, avec, alors moi je connais pas bien cette histoire, mais avec une répression terrible, et puis la consolidation non seulement d'un régime fasciste, mais aussi d'une économie néolibérale qui... dont en fait les Chiliens sont aussi les héritiers en fait aujourd'hui, enfin la société chilienne. Ce régime de Pinochet, il s'enracine politiquement avec la Constitution de 1980 et Pinochet quitte le pouvoir en 90. Et là, on a 30 années. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant ces 30 années? Comment ça se fait que les Chiliens, Chiliennes ont attendu aussi longtemps pour justement redéfinir les règles politiques et abandonner cette constitution, selon vous?
Il faut voir que la sortie de la dictature s'est faite de manière négociée déjà. Certains disent pactée en fait, entre les élites, entre un centre-gauche rénové qui a finalement accepté les règles du jeu néolibéral, la démocratie chrétienne, la droite et les militaires. Et donc en gros, on passe à un régime démocratique libéral, mais dans des conditions très spécifiques, avec des continuités très fortes de l'héritage autoritaire, dont la constitution de Pinochet, mais aussi le modèle économique, le droit du travail, l'extractivisme, l'extraction des biens naturels, et tous les conséquences environnementales qu'il y a avec. Et a gouverné pendant 20 ans une coalition entre le Parti Socialiste et la Démocratie Chrétienne, de 90 à 2010, qui finalement, on dit au Chili, on fait la démocratie dans la mesure du possible. Et donc, en acceptant tout un tas d'héritages autoritaires, le modèle néolibéral, ses inégalités, la constitution autoritaire, et finalement, ils ont fini par consolider le modèle néolibéral en démocratie, et par le légitimer aussi d'une autre manière. Alors, dans ces années-là, il y a une baisse de la pauvreté, mais en même temps, il y a une consolidation des inégalités sociales. Et c'est ça qui commence à se fissurer au début des années 2006-2007. C'est tout cette domination-là par des grandes mobilisations, par un rejet toujours plus grand de la part des jeunes, par certaines luttes syndicales, par la lutte du peuple mapuche, etc.
On va parler juste après de justement la lutte du peuple mapuche, mais pour comprendre de quoi on parle, par exemple en termes de droit du travail, comment est-ce que ça se matérialise, par exemple en termes de contrats, de droits, de grève, de rapports de force, est-ce que ce serait possible de nous donner des éléments qui puissent nous permettre d'imaginer en fait la situation du Chili en 2020, 2021, enfin aujourd'hui, quand on bosse, par exemple,
Déjà, il y a 45 heures de... C'est bon, comme ça? Il y a 45 heures de travail. On travaille 45 heures par semaine. Le salaire minimum, il est à 350 euros.
À peu près.
À peu près. Mmh. Et il n'y a pas le droit à grève.
Ok. Donc, là, aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas le droit de grève.
Ben disons que le code du travail, c'est celui de 79, il a été légèrement modifié, mais celui de la dictature. Donc en fait, pour faire une grève légale au Chili, c'est possible, mais quelques semaines par an dans le cadre de la négociation collective.
Okay.
Tout ce qui est en dehors de la négociation collective, c'est considéré comme illégal. Et seulement les grèves dites économiques, mais qui sont définies par le code, sont légales, mais donc on qualifie très rapidement les grèves d'illégales. Et surtout au Chili, depuis la dictature, il n'y a plus de négociation par branche. Ça veut dire que les salariés en France, on est couvert à 90% par la négociation collective. Même si on est dans une petite boîte, on bénéficie d'autres des conquis sociaux finalement. Alors qu'au Chili, la population n'est pas couverte par ces négociations collectives et c'est interdit de négocier par branche. D'ailleurs, une des promesses de Boric, le nouveau gouvernement, c'est de revenir là-dessus et qu'il y ait des avancées réelles en termes du droit du travail.
Et en termes de chômage et de minima sociaux?
Chômage, il y a une espèce d'assurance privée. Donc, grosso modo, pour faire la comparaison ici en France. Et donc, c'est la cotisation de salaire de chaque employeur qui va à cette espèce d'assurance. Donc, ce n'est pas le patron qui paye, en fait.
Oui, chaque travailleur.
De chaque travailleur, oui. Donc, ça dépend de ton salaire. Le montant, c'est un pourcentage. Et donc, d'un moment donné, quand tu as plus de travail, quand tu es au chômage, tu prends cette assurance et tout l'argent qui t'a pu économiser en 10 ans, et ça te renverse quelques mois, ce que tu as pu avoir, mais... C'est une espèce d'épargne d'à côté pour quand tu aurais le chômage ou la perte.
Ouais, non, mais c'est bien, ça fait un peu émission noise aussi, en même temps, c'est parfait, quoi.
Voilà. Donc,
et par exemple, on voit, enfin, tous les champs sociaux ont été marchandisés, privatisés. La question des retraites, qui est au cœur des grandes mobilisations de la dernière période et des débats politiques, mais elles ont été passées à des fonds de pension, toutes les retraites, en fait, sous la dictature. Et donc ces fonds de pension, c'est eux qui dominent l'économie chilienne maintenant, puisqu'ils ont financiarisé l'ensemble de l'économie avec les cotisations des travailleurs, alors que les retraites aujourd'hui sont complètement minimales. Et donc un des défis et une des grandes revendications, c'est de revenir à un système public de retraite. On va même pas parler de retraite par répartition, parce que là c'est tellement loin dans la possibilité réelle, mais la proposition de Boric, c'est une sorte de mixte avec une retraite minimale, un système en partie de cotisation individuelle et une garantie de l'État, ce qui serait déjà une grande avancée par rapport à l'existant.
Et alors là, tu me parles des propositions de Boric, mais est-ce que, par exemple, si on sonde un petit peu, que ce soit les milieux syndicaux ou même les travailleurs, si certains s'organisent ou pas de manière autonome, c'est quoi les échos justement de Boric dans ces mouvements-là?
Alors il faut déjà voir que l'état du mouvement syndical au Chili a été complètement écrasé par 16 ans de terrorisme d'État, de dictature. Donc là, reconstituer un syndicalisme, lutte de classe, c'est très difficile au Chili. Mais il y a des secteurs qui ont réussi. Il y a des secteurs dits stratégiques, notamment dans le secteur minier. Il faut se rappeler que le Chili, c'est le cuivre et le lithium. Donc là, on a des syndicats assez forts. Les ports, puisque c'est un pays exportateur, donc... Il y a un syndicalisme portuaire qui s'est reconstitué, qui est plus politique. Mais globalement, le syndicalisme a été très vraiment fragmenté, pulvérisé. Et le...
C'est vraiment parfait, ça n'arrive pas à nommer.
C'est ça, c'est le syndicalisme qui a été pulvérisé.
C'est ça.
Et le mouvement syndical, globalement, notamment face au danger caste, a très clairement appelé à voter Boric, ou en tout cas contre
le candidat d'extrême droite.
Ouais, le candidat d'extrême droite. Il faut voir aussi qu'il y a une grande centrale syndicale, la CUT, qui, elle, n'a pas du tout joué son rôle, justement. Elle est dominée par le Parti Socialiste, la Démocratie Chrétienne et le Parti Communiste. Et pendant la grande révolte d'octobre, ils ont plutôt freiné plutôt qu'alimenté le mouvement. Il y avait des propositions de grève nationale. Finalement, elle était arrachée sous pression du mouvement féministe et d'autres organisations, alors que la CUT, là, elle aurait pu jouer un rôle d'unification, finalement, de coordination des luttes, notamment syndicales. Et donc là aussi, il y a une critique assez forte envers une bureaucratisation d'une partie du mouvement syndical.
Et justement, tout à l'heure, là, tu as commencé à évoquer l'extractivisme. Donc il faut savoir, alors c'est assez compliqué de faire des statistiques là-dessus, mais il y a quand même plus à peu près 10% de la population au Chili qui est indienne, ou en tout cas qui vient des peuples natifs, voilà, et notamment qui ont levé la voix depuis... alors, c'est pas depuis 2019, c'est depuis toujours, en fait, qu'il y a une lutte pour l'autonomie et pour...
Oui, depuis 500 ans.
Depuis 500 ans, oui, pour la restitution des terres. Ils ont quand même été particulièrement visibles depuis 2019 avec la visibilisation des oppressions qu'ils subissent. Et notamment, en fait, je voulais poser la question, dans quelle mesure, en fait, cette constitution, elle peut leur offrir des garanties des réponses, en fait, à leurs revendications, et surtout à la question de la restitution des terres, parce que j'ai l'impression que c'est une histoire qui est très longue et qui est très dure, en fait, puisqu'il n'y a pas eu grand-chose de satisfaisant, en fait, depuis... depuis la fin de la dictature, en fait, il y a eu un peu de la poudre aux yeux avec des politiques qui venaient restituer certaines terres, mais en fait, ça n'a pas arrêté les grosses entreprises extractivistes d'aller piller, en fait, les souterrains, enfin les souterrains, non, les
ressources.
Ouais. Les ressources.
Oui, la question des mobilisations et des revendications. Donc au Chili, il y a plusieurs peuples autochtones, mais notamment le peuple Mapuche, qui est le plus nombreux, le plus concentré territorialement aussi dans le sud du pays, et qui a mené des luttes historiques pour justement la restitution des terres, l'autodétermination, la reconnaissance de leurs droits culturels, économiques, sociaux. Évidemment, sous Pinochet, ils étaient un des ennemis hein, de l'État, mais l'arrivée de la démocratie n'a pas du tout réglé, n'a pas du tout répondu à leurs demandes. Aujourd'hui, la Convention constitutionnelle, elle va avancer, elle propose d'avancer en tout cas vers un État plurinational, comme il existe en Bolivie, en Équateur, donc qui reconnaîtrait qu'un État, mais plusieurs nations qui vivent sur ce territoire-là, ce serait déjà une avancée. Il y a des idées aussi de déconcentrer le pouvoir, notamment vers les territoires, de reconnaître la justice communautaire autochtone, mais pour toute une partie du mouvement Mapuche, c'est pas suffisant. Il reste la question très forte de la restitution des terres, et notamment il y a un lien avec l'extractivisme, puisque leurs terres ont souvent été envahies par l'extraction autour de l'industrie forestière, pins, eucalyptus, qui ont ravagé en fait leurs terres. Et donc là, il y a un enjeu, et ça signifierait répondre à ça, s'affronter vraiment aux classes dominantes chiliennes, à un secteur de la bourgeoisie chilienne qui est une des plus consolidées. Et donc ça va être très compliqué et nécessiter beaucoup de conflits, ça c'est sûr.
Là, tu parlais des exemples d'un État plurinational en Bolivie ou en Équateur. Ça change quoi concrètement quand on passe à ce modèle politique-là?
Ben, c'est quand même déjà la reconnaissance de la pluralité hein, des nations. Ça donne des droits en termes de terres, autonomie territoriale, de gestion de ces terres, de consultation préalable pour tout projet extractiviste sur ces territoires. De reconnaissance linguistique, l'État se doit d'être plurilinguistique, qu'il y ait une éducation aussi plurilinguistique et culturelle, la justice communautaire dans la mesure où elle respecte les droits fondamentaux, mais la justice communautaire doit être reconnue par l'État central, et ça réintègre en fait finalement les populations autochtones dans la république, on pourrait dire ça comme ça. Après, ce qu'on sait, c'est qu'une constitution en soi, elle peut être appliquée ou ne pas être appliquée. Donc voilà, c'est des questions aussi de rapport de force.
Ok, on fait une petite pause musicale, on se retrouve juste après.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh. Que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar. Más allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y napalm, la luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Thank you. más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, 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 la.
Midi 45 sur Canal Sud 92.2, il nous reste un petit quart d'heure pour essayer de continuer à balayer un petit peu cette discussion très très vaste, très large. Alors là, j'ai un trou de mémoire parce que je voulais rebondir sur justement... Ce même article-là de l'interview de Gabriel Salazar qui parlait un peu des contradictions politiques. Je ne sais pas si toi tu as la même analyse, mais de se dire en fait on est quand même, on n'est pas dans le cadre d'une assemblée constituante, on est quand même dans le cadre d'une convention constitutionnelle. C'est quoi la différence déjà?
En fait, oui, Gabriel Salazar, c'est un des historiens qui a beaucoup travaillé sur cette notion d'assemblée populaire, assemblée par en haut, assemblée par en bas. Et lui, ce qu'il critique, c'est que la convention, elle est issue d'un accord au Parlement, en fait. Après la révolte d'octobre, une partie de la gauche, notamment Gabriel Boric, qui vient d'être élu président, et tout l'arc du centre et de la droite, signe un accord pour la paix, la nouvelle constitution. Pour la paix sociale et la nouvelle constitution, qui essaie de canaliser un peu le mouvement social dans une perspective constitutionnelle, dans un contexte de répression très très dur. Il faut rappeler, il y a eu 450 mutilés oculaires, plus de 3000 blessés, dont certains très graves.
Prisonniers politiques.
Des prisonniers politiques, il y en a toujours d'ailleurs aujourd'hui. Il y en a plus d'une trentaine qui sont encore dans les geôles depuis 2 ans et demi.
Ça justement, il y a eu des déclarations de la part de cette coalition sur... La question de la répression des prisonniers politiques, de la police.
Oui, là, évidemment, parce que c'est un thème central du mouvement social aujourd'hui qui revendique la libération et l'amnistie en fait de tous les prisonniers de la révolte sociale. Et certains élargissent aussi des prisonniers mapuchés, des prisonniers libertaires qu'il y a au Chili. Et la réponse de Boric est « on va traiter cette question-là, mais au cas par cas pour l'instant, avec une loi de... » En gros, l'État ne va plus être partie civile dans ces accusations, mais la justice continue à les accuser, en tout cas à les mettre en procès, mais un procès qui dure et qui dure et qui dure. Et donc là, il y aurait peut-être au cas par cas des libérations, ce qui n'est pas la revendication initiale, qui était une loi d'amnistie.
Tu voulais rajouter quelque chose ?
Non.
D'accord. Okay. Il y a aussi la contradiction du fait qu'on est en train, d'écrire une nouvelle constitution, mais que le président élu l'a été sous la constitution de 1980 aussi. Il y a aussi ce point de friction aussi politique de la légitimité aussi en fait de ce gouvernement élu quand la nouvelle constitution sera adoptée, non?
Disons que un des défis du nouvel gouvernement à partir de mars, là, c'est le début du mandat, c'est comment va être mise en place ensuite cette nouvelle constitution qui va terminer de sessionner en juillet. En septembre, il y aura un référendum de sortie pour valider le nouveau texte. Et sur cette base-là, comment le gouvernement va faire pour mettre en place une nouvelle constitution qui va modifier la forme de l'État. Donc il est... chef d'État, et il va être chargé de modifier profondément. Donc là, il faut regarder du côté de ce qui s'est passé dans les pays voisins, mais ça va être très complexe, alors qu'il ne domine pas la Chambre basse et la Chambre haute, alors qu'il va peut-être avoir suppression du Sénat, État plurinational, enfin une transformation assez profonde.
Et dans un contexte dans lequel l'extrême droite pèse aussi.
C'est ça, l'extrême droite, les secteurs conservateurs, la droite et même le centre, la démocratie chrétienne, par exemple, ça a toujours été un frein à la gauche, aux mobilisations au Chili. Donc l'année qui vient va être très très compliquée, aussi bien du point de vue du gouvernement que des mouvements sociaux, de l'Assemblée constituante, enfin de la Convention constitutionnelle. Mais sur cette convention, donc, elle était pré-réglé d'une certaine manière auparavant, et c'est pour ça que c'est pas une assemblée constituante souveraine. Il y a des éléments qui la régulent, par exemple une majorité des deux tiers pour valider tous les articles, ce qui pouvait donner des verrous à une partie des secteurs conservateurs. Les traités internationaux ne peuvent pas être modifiés, notamment les traités de libre commerce. Voilà, il y a des éléments qui la limitent dans sa souveraineté.
D'accord. Peut-être pour conclure un peu cette émission, dans les années 70-80, il y a énormément, ou même après, il y a énormément de Chiliens, Chiliennes qui ont fui le pays. Il y a une communauté chilienne, par exemple en France. Je me demandais quel est le rôle qu'a joué la diaspora chilienne, déjà dans les recompositions, enfin déjà dans les mouvements sociaux depuis 30 ans en fait, et aujourd'hui, selon toi, quel rôle elle peut jouer?
Pour moi, aujourd'hui, c'est justement faire écho de cette lutte, de ces mouvements sociaux qui a quand même réussi à se faire entendre, et qui a réussi, même si ce n'est pas l'Assemblée populaire, c'est une convention constitutionnelle, c'est quand même, il y a des avancements, il y a des avancées, et qui est toujours dans la rue, encore, hein, il y a toujours un rassemblement tout le vendredi, il y a eu des assemblées territoriales qui se sont faites, qui sont aujourd'hui, qui font partie des organisations, il y a des gens qui viennent...
Mais tu parles de Chili.
Oui. Oui, je parle de Chili. Donc, qui viennent, il y a des mouvements sociaux qui font partie aujourd'hui aussi des agents de la nouvelle gouvernement. Donc, c'est quand même pas mal. Et donc aujourd'hui, la diaspora, c'est en fait ça, de faire l'écho, de montrer ce qui est possible, de montrer que faire une face contre, de réagir face à l'extrême droite, parce que même si tout le mouvement social n'est pas d'accord avec Boris, il y a eu une grande mouvement. Voilà. Ouais, elle est contente.
La nouvelle génération a des choses à dire.
Voilà, voilà. Un grand moment pour faire face à cette avancée de l'extrême droite. Donc finalement, il y a eu quand même une avancée sociale d'organisation populaire pour faire face à cette extrême droite. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, mon impression, c'est ça, de faire l'écho de que c'est possible de faire face à l'extrême droite.
Ouais, au Chili et en France.
Et en France, oui. Donc aujourd'hui, c'est justement ça, et d'essayer aussi d'organiser en fait, la diaspora internationale de Chiliens aussi. Parce que on est quand même pas mal des exilés. Moi, je suis exilée, peut-être éducationnelle, contemporaine, pas comme dans les années 70, mais il y a des nouvelles générations aussi qui sont dû partir par rapport à la précarité qui existe au Chili. Donc, on a des diasporas
économiques
aussi, donc diasporas qui viennent d'avant, mais d'aujourd'hui aussi. Et donc c'est ça, c'est l'organisation de cette nouvelle gouvernement qui est à tout à refaire. Donc on verra.
Et notamment, il y a un collectif qui s'appelle Chilenos en Toulouse sur Facebook. En l'occurrence, je les avais contactés. Il y en a plein qui m'ont rappelé. Ils avaient trop envie de parler. Et d'ailleurs, je les salue parce que Ils étaient tous au taf aujourd'hui, ils n'ont pas pu venir ni en parler, mais en tout cas, on les
a. Je fais partie de Chilienne de Saint-Toulouse.
Ok.
Parce que c'est assez large, en fait. Il y a tout le monde, même des organisations et tout.
Okay.
Donc, oui, bonjour. À los chicos, à las chicas.
Et en plus, je crois que depuis 2019, en fait, il y a même des rassemblements réguliers à Toulouse.
Exactement. Ouais. Et oui, en fait, c'est FAL, c'est l'association FAL qui a.
France-Amérique Latine.
France-Amérique Latine, qui a fait le premier appel. Cacerolazos à Toulouse et bon et en France aussi à Paris aussi donc c'est quand même c'est symbolique il y en a, parce qu'on a quand même pas mal de Chiliennes à Toulouse et aussi à Paris donc ouais ça fait partie de cette organisation après il y a différents points de vue on est assez ouvert par rapport au positionnement politique, mais en tout cas on est d'accord de faire les choses et de montrer ce qui se passe au Chili maintenant.
Merci beaucoup. Peut-être pour terminer, on a commencé par ça, mais est-ce qu'il y a des événements à venir dans le réseau France-Amérique Latine, notamment à Toulouse? Les rencontres avec le monde diplomatique, c'était hier.
C'était hier, oui, tout
ça
à fait.
Ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé. D'ailleurs, la conférence est déjà en ligne. Donc, pour ceux qui veulent voir, ça sera visible sur YouTube et sur les réseaux.
D'accord. Et du coup, pour la suite, est-ce qu'avec France-Amérique Latine, vous organisez des rencontres, festivals?
Tout à fait. Il y a le festival Latinodoc qui se fait toujours en novembre. Donc, on est en train déjà de travailler par rapport à l'organisation de cette année. Et on aura une activité par rapport à notre projet, parce qu'on fait des projets d'Amérique latine, non, pas seulement de Chili. Donc, on a un projet qui est en contact avec la communauté Patacho du Brésil. Donc, on fera une conférence par rapport à cette activité, à ce projet.
D'accord.
De solidarité avec l'association. Et toujours, on a des conférences, toujours, on a des invitations à parler de Chili. Mais aussi, on est en train aussi de voir comment se positionner, comment faire une activité par rapport aux élections, parce que cette année, il y a aussi des élections en Colombie, il y a des élections au Brésil. Donc, c'est une année assez chargée par rapport au mouvement, à s'organiser pour essayer d'aller voter. C'est pas facile en tant qu'étrangère de voter, de faire partie des élections. Et aussi de débattre de comment se positionner par rapport aux candidats et au mouvement. Voilà, donc ça sera des activités à venir.
D'accord, merci. Et vous êtes sur les réseaux pour ceux et celles qui ont envie de vous retrouver?
Oui, on a un Facebook qui s'appelle FAL Toulouse. On a un site web. Et voilà. Et sinon, France-Amérique latine, elle a Instagram au niveau national.
Il y a une revue aussi nationale.
Il y a une revue aussi qui s'appelle FAL Mag, que vous pouvez aller voir sur le site web aussi, franceamericlatine.org. Et si vous adhérez à l'association, vous avez aussi l'adhésion à cette revue qui est assez intéressante.
Ok, c'est l'étape d'après ça, mais oui, carrément. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose avant qu'on se quitte?
En tout cas, oui, la situation chilienne, à mon avis, a beaucoup à nous apporter en termes de réflexion sur déjà comment affronter le néolibéralisme. Puisque c'est un des pays laboratoires du néolibéralisme à l'échelle planétaire, donc il faut aussi regarder de ce côté-là pour tirer des leçons de l'expérience chilienne. La radicalité, l'ampleur des mouvements populaires d'octobre, c'est aussi impressionnant. La force du mouvement féministe et aussi la question de l'extrême droite qui est ici et qui est là-bas. Donc là aussi, je pense qu'on a des choses à échanger des deux côtés de l'Atlantique.
Merci beaucoup à vous et merci.
Merci.
Et nous, on va écouter une petite pause. On va faire une petite pause musicale et juste après, on va rediffuser une émission où on avait des invités qui faisaient partie du mouvement des femmes kurdes à Toulouse. Voilà, on se retrouve juste après. Et si vous voulez gagner une place pour le concert d'O2N demain à 20h, appelez-nous au 05 61 53 36 95. Après, ce sera trop tard. Allez, salut, bon après-midi.
cuando canta el gallo negro. Es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento,